Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Il est 19h30 en temps universel, 14h30 dans la capitale américaine. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre dans Le Monde aujourd'hui, en ce mercredi 26 février 2020. Jacques Aristide avec vous, à la une de l'actualité ce soir. Au Burundi, le gouvernement dit avoir tué au moins 22 criminels armés dans des affrontements préélectoraux. Vive critique contre les soldats français de la Légion étrangère au Mali. L'ambassadeur malien Toumani Djimé Diallo parle de débordement, Paris d'y prendre note. La Guinée-Bissau, toujours dans l'impasse politique, 2 mois après la présidentielle, un des candidats invite à son investiture. Le coronavirus continue à se propager dans le monde et à provoquer de fortes inquiétudes. Ici aux États-Unis, le président Donald Trump s'exprime sur la crise ce soir. Ne manquez pas non plus vos rendez-vous habituels avec l'économie et les sports. Dans 10 minutes environ, Le Monde aujourd'hui, vous avez le programme et c'est parti. Le Burundi, pour ouvrir le journal, les forces de l'ordre du pays affirment avoir tué au moins 22 criminels armés dans la province de Bujumbura rurale. 2 policiers ont également perdu la vie lors d'affrontements, des incidents que les autorités lient à la présidentielle du 20 mai prochain. Le point avec Abdourahmane Dia.
Ce bilan, revu à la hausse ce mardi, fait suite à celui annoncé hier et qui faisait état de 13 bandits armés et un policier tué. Le porte-parole de la police, Pierre Kourkiyé, a indiqué qu'un groupe armé apparu le 19 février sur les collines de Bujumbura rural a été démantelé lors de cette opération dans laquelle 6 assaillants ont été arrêtés. Il n'a pas révélé l'identité de ce groupe armé, mais il a lié son apparition à l'élection présidentielle du 20 mai. Il a appelé les populations à rester calmes, déclarant que les forces de l'ordre assurent leur sécurité. Dans le même temps, le Conseil national pour la liberté, principal parti d'opposition, a choisi Agathon Rwasa comme son porte-drapeau pour ces élections. Le CNL a dénoncé l'arrestation d'une trentaine de ses membres depuis l'apparition de ce groupe armé à Bujumbura rural. Un porte-parole du CNL a évoqué une véritable chasse à l'homme qui a poussé des dizaines de leaders locaux de ce parti dans la clandestinité. Le président sortant, Pierre Nkurunziza, ne se présente pas à ce scrutin. Un de ses proches, Évariste Ndayishimiye, sera le candidat du CNDD-FDD, le parti au pouvoir.
Bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo. Sur le front de l'épidémie d'Ebola, aucun nouveau cas confirmé n'a été rapporté, ni aucun décès confirmé. Ceci pour le 7e jour consécutif, d'après l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui indique que l'épidémie est désormais réduite à la seule zone de Beni. L'agence onusienne dit toutefois vouloir afficher un optimisme prudent. La maladie a tué au total 2264 personnes depuis le 1er août 2018. La confusion perdure en Guinée-Bissau 2 mois après le second tour de la présidentielle du 29 décembre dernier. L'un des 2 candidats a déclaré son intention aujourd'hui de se faire investir demain au poste de chef de l'État malgré l'imbroglio sur l'issue du scrutin. Davantage avec Nathalie Barge.
J'invite tous mes compatriotes à la cérémonie de mon investiture qui aura lieu demain, a annoncé Umaro Sissoko Embalo. Le candidat de l'opposition s'est appuyé sur une déclaration de la commission électorale qui a confirmé hier les résultats le donnant vainqueur avec 53,55% des voix. Une victoire que conteste Domingo Simoes Pereira du parti au pouvoir crédité de 46,45% des voix et qui réclame le recompte de tous les bulletins. Saisi par le PAIGC, la Cour suprême a rendu des arrêts pour la vérification des procès-verbaux, mais qui n'ont pas permis de trancher le contentieux. Elle est à nouveau appelée à se prononcer sous 48 heures.
Au Togo, l'opposant Agbeyome Kodjo, arrivé derrière le chef de l'État sortant, Faure Gnassingbé, à la présidentielle de samedi dernier, indique aujourd'hui avoir déposé un recours devant la Cour constitutionnelle hier soir. Il dénonce ce qu'il appelle de faux résultats et une mascarade électorale. Cet ancien Premier ministre et outsider de l'opposition a obtenu 18,37% des voix contre 72,36% pour le président sortant, d'après les résultats officiels. Fornia Simbe a lui déclaré lundi dernier que cette victoire, personne ne peut la voler, elle nous appartient, dit-il. L'ambassadeur malien à Paris n'a pas mâché ses mots hier. Au cours d'une audition au Sénat français, Toumani Djimi Diallo a sévèrement critiqué les soldats de la Légion étrangère qui prennent part à l'opération Barkhane dans son pays. Il a dénoncé ce qu'il qualifie de débordement qui pose problème et qui abat.
On va vers le dialogue tout simplement pour exploiter toutes les possibilités qui existent, mais il y aura des lignes rouges. La charia, nous ne marcherons pas. L'intégrité territoriale, nous ne marcherons pas. La situation faite aux femmes, nous ne marcherons pas, a assuré Toumani Djimi Diallo, interrogé à plusieurs reprises sur le sujet par la commission défense du Sénat. Et même si on trouvait une solution d'entente, ceux qui ont du sang sur les mains devront rendre compte, a-t-il ajouté, au cours de cette audition rassemblant les autres ambassadeurs des pays du G5 Sahel. Le 10 février, Ibrahim Boubacar Keïta a reconnu pour la première fois l'existence de contacts avec des leaders djihadistes maliens, les justifiant par la nécessité d'explorer les voies d'une sortie de crise après 8 années de guerre. Il a cependant affirmé attendre encore une réponse à la démarche d'approche entreprise par un de ses représentants.
L'ambassadeur malien ajoute toutefois qu'il n'y a pas de sentiment anti-français au Mali. Nous prenons note, mais nous souhaitons réaffirmer notre solidarité envers nos forces armées, a réagi le président de la commission du Sénat, Christian Cambon. S'il y a des manquements, il y a des autorités militaires qui sont tout à fait adaptées pour corriger ces choses, a-t-il fait valoir. En Tunisie, le Parlement doit accorder aujourd'hui, sauf coup de théâtre, sa confiance au nouveau gouvernement qui a été constitué après 4 mois d'intenses négociations et qui doit s'atteler à d'importants dossiers socio-économiques en suspens. L'Égypte rend les honneurs militaires à Hosni Moubarak aujourd'hui lors des funérailles de l'ex-président décédé hier à l'âge de 91 ans dans un hôpital.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Donald Trump va s'exprimer ce soir sur l'épidémie de coronavirus lors d'une conférence de presse. Ses détracteurs démocrates ici aux États-Unis dénoncent le manque d'anticipation de son administration. Les détails avec Yacouba Ouedraogo.
Le président américain accuse les démocrates et certains médias comme CNN d'affoler les marchés. Il s'emploie à présenter le coronavirus comme aussi mauvais que possible, créant la panique sur les marchés, a dénoncé Donald Trump. Il a aussi reproché aux démocrates de parler beaucoup sans rien faire. Il ne s'agit pas tant de savoir si cela se produira dans ce pays, mais de savoir quand cela va se produire, a déclaré le Centre de contrôle et de prévention des maladies, le CDC. Un soldat américain en poste en Corée du Sud a été testé positif. Les autorités sanitaires disent s'attendre à une propagation du coronavirus aux États-Unis. Elles ont encouragé les écoles, les entreprises et les gouvernements locaux à envisager des mesures de précaution comme l'annulation d'événements publics. Elles disent aussi craindre que l'épidémie ne menace la chaîne américaine d'approvisionnement en médicaments. Une grande partie des substances utilisées dans la confection des produits médicaux est fabriquée en Chine, d'où le virus est parti.
Oui, le coronavirus qui préoccupe bien entendu toute la planète après l'Italie. L'épidémie se propage désormais à travers l'Europe, ce qui provoque de fortes inquiétudes et met le continent sous pression pour contenir la maladie. Le bilan s'est alourdi aujourd'hui, en particulier en Iran, où ont été recensés 19 morts, le plus grand nombre après celui de la Chine. Pour la première fois, le nombre quotidien de nouvelles contaminations par le coronavirus dans le monde a dépassé celui enregistré en Chine, d'où est partie donc l'épidémie en décembre dernier, d'après l'OMS qui fait état de 411 nouveaux cas en Chine contre 427 cas ailleurs dans le monde. Le Covid-19, c'est son nom, est apparu depuis hier dans plusieurs nouveaux pays, Autriche, Suisse, Croatie et Grèce, de même qu'en Algérie. Hors de Chine continentale, l'épidémie a fait une 50aine de morts dans une 40aine de pays avec près de 2800 contaminations. Et puis en Inde, le chef du gouvernement Narendra Modi a appelé au calme aujourd'hui face à des heurts intercommunautaires qui ont fait 22 morts à New Delhi, ce qui marque un des pires embrasements de la capitale indienne depuis des décennies. Des émeutiers armés de pierres, de sabres et parfois de pistolets sèment le chaos et la terreur depuis dimanche dernier dans des faubourgs populaires du nord-est de la mégapole. Et voilà donc pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale ce soir. Et maintenant, un résumé des nouvelles économiques en Afrique. Il est l'heure de la Minute Éco avec Nani Talani.
L'Éthiopie annonce qu'il ne participera pas au cycle de négociations parrainé par les États-Unis sur le projet du barrage sur le Nil, car sa délégation n'a pas terminé les consultations avec les parties prenantes concernées. Dans les négociations qui devraient se tenir jeudi et vendredi à Washington, l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie étaient censés discuter et signer un projet d'accord préparé par le département du Trésor américain sur le remplissage et l'exploitation du grand barrage éthiopien de la Renaissance. Le Fonds monétaire international maintient la pression sur la République démocratique du Congo à cause des inquiétudes que suscite l'exécution de son budget 2020 en raison des pressions sur les dépenses et de la faiblesse des recettes. Ces pressions ont entraîné des avances de la Banque centrale du pays au gouvernement et une érosion des réserves internationales de la dite banque, s'inquiète le FMI. Il insiste sur la nécessité de mettre un terme aux avances de la banque et de rembourser celles accordées. L'institution estime aussi qu'il est réaliste pour la RDC de revoir son budget 2020 à la baisse. Pour terminer, le ministère sud-africain des Finances a présenté un projet de budget pour la prochaine année fiscale. Il réduit de 15,8 milliards d'euros les dépenses publiques. Ce budget est surtout rigoureux pour les agents de l'État. Leur masse salariale, qui représente plus d'un tiers, soit 35% du budget public, sera amputée de 9,7 milliards d'euros en 3 ans, soit une baisse de 9%. Pour le ministère, il s'agit de mettre fin au salaire excessif des fonctionnaires. Ceux-ci menacent déjà de faire la grève.
Et maintenant, pour un tour d'horizon de l'actualité sportive, nous retrouvons Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
Cyclisme, coup double pour Nathanaël Tesfazion au Tour du Rwanda.
Oui, l'Érythréen a remporté la 4e étape, la plus longue courue entre Rusizi et Rubavu, 206 km, en 5h34 minutes 46 secondes. Il a devancé le Sud-Africain Kent Main et le Rwandais Moïse Mugisha. Au classement général, Tesfazion ravit le maillot jaune à Binyam Ailou et possède une bonne avance de 2 minutes 11 secondes sur son poursuivant immédiat, Moïse Mugisha. Le Chilien Carlos Oyarzun est leader au classement des grimpeurs. L'Érythréen Dewita Yemane est à la tête des meilleurs sprinteurs. La 5e étape amènera le peloton de Rubavu à Mossanzé, 84,7 km.
Ligue des champions ce soir en Europe.
Le Real Madrid, qui reçoit Manchester City en 8e de finale, espère éviter l'humiliation d'une nouvelle élimination. À ce stade de l'épreuve face à des citizens désireux de retarder leur au revoir à l'Europe, le Real retrouve un de ses meilleurs ennemis, Pep Guardiola, désormais entraîneur des citizens. Le Catalan n'a plus affronté le Real Madrid depuis 2014 et une gifle reçue en demi-finale de cette même Ligue des Champions, alors qu'il entraînait le Bayern Munich, défaite 1-0 puis 4-0. Dans l'autre match de la soirée, Lyon reçoit la Juventus Turin dans l'un des duel les plus déséquilibrés de ces 8e de finale. Coup d'envoi de ces deux rencontres, 20h, temps universel.
En NBA, le championnat de basket nord-américain, Stephen Curry retrouve les parquets le week-end prochain.
Oui, la star des Golden State Warriors va effectuer son retour en championnat NBA dimanche contre les Washington Wizards. Après 4 mois d'absence pour blessure, Stephen Curry s'est blessé contre Phoenix lors du 4e match de la saison régulière le 30 octobre dernier, victime d'une fracture de la main. Il s'est entraîné pour la première fois avec ses coéquipiers le 22 février. Les Warriors, sacrés champions NBA en 2015, 2017 et 2018, mais battus en finale en 2016 et 2019, affichent le pire bilan du championnat cette saison avec seulement 12 victoires en 56 matchs.
Et tennis, Maria Sharapova annonce sa retraite.
La star russe, lauréate de 5 tournois du Grand Chelem, a mis un terme à sa carrière. Tennis, je te dis adieu, a écrit la russe de 32 ans. Après 28 ans et 5 titres du Grand Chelem, je suis prête à gravir une autre montagne sur un terrain différent, a ajouté l'ancien numéro 1 mondial dont la carrière a été entachée par une suspension de 15 mois pour dopage au printemps 2016. Maria Sharapova, redescendue au 373e rang mondial, restait sur 4 défaites consécutives, dont les éliminations au premier tour de l'US Open 2019 et de l'Open d'Australie 2020 contre la Croate Dona Vekić. Son dernier match, elle reste l'une des rares championnes à avoir remporté les 4 tournois majeurs, Wimbledon en 2004, l'US Open en 2016, l'Open d'Australie en 2008 et Roland Garros à 2 reprises, 2012 puis 2014.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Il est 19h15 sur VOA Afrique et vous écoutez Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristide toujours avec vous. Mille merci pour votre fidélité à VOA Afrique et maintenant notre tranche magazine. Retour sur la nouvelle crise politique en Guinée-Bissau. Deux mois après l'élection présidentielle du 29 décembre dernier, le pays attend toujours de savoir qui prendra la tête de ce pays confronté à d'innombrables défis. Oumaro Sissoko Embalo dit que c'est lui qui a remporté le scrutin. Il est âgé de 47 ans, dissident du parti historique et dominant, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, le PAIGC. Diplômé de relations internationales, cet ancien général et ex-premier ministre était le candidat de l'opposition. Idriss Fall s'est entretenu avec son directeur de campagne, Ralifa Gassama.
Ce sera la cérémonie d'inauguration du président élu, Oumaro Sissoko Embalo. Après la reconfirmation hier, la Commission nationale des élections, qui a confirmé pour 4e fois consécutive l'élection du général Oumaro Sissoko Embalo comme le président de la République de la Guinée-Bissau. Donc Oumaro Sissoko Embalo, c'est le 5e président élu démocratiquement en Guinée-Bissau. La cérémonie aura lieu dans une hôtel de Bissau, à Zanaï. À la cérémonie, nous verrons présents les députés et les invités pour l'inauguration de Oumaro Sissoko Embalo.
Mais la Cour suprême, quand même, s'était prononcée pour demander un recompte des voix. Est-ce que Sissé Embalo va prêter serment devant la Cour suprême?
Non, la Constitution de la Guinée-Bissau, ce n'est pas pour le prêter serment devant la Cour suprême. C'est pour prêter serment devant les députés de la nation. C'est ça qui dit la Constitution de la Guinée-Bissau.
Mais l'autre candidat, Domingo Simões Pereira, avait saisi la Cour suprême en cas de litige. Et que la Cour suprême s'est déjà prononcée et doit se reprononcer dans les 48 heures.
Ce que la Cour suprême a demandé, c'est ça qui s'est mis à faire hier. Donc pour nous, c'est fini. Le processus électoral s'est clôturé.
Est-ce que la Guinée-Bissau peut se payer le luxe d'entrer dans une nouvelle crise?
Non, on ne croit pas qu'il y a de crise. Pour nous, le processus électoral s'est clôturé. Demain, Oumaro Sissoko Embalo va prêter la cérémonie. Donc, ce sera une nouvelle république de la Guinée-Bissau.
Mais il va gouverner comment si l'Assemblée est dominée par le PAIGC alors?
On va confirmer ça demain.
On écoutait Ralifa Gassama, directeur de campagne de Oumaro Sissoko Embalo, qui se présente comme le président élu après l'élection présidentielle du 29 décembre dernier en Guinée-Bissau. Certainement pas, objecte Domingos Simões Pereira, 56 ans, autre produit du système, ancien chef de gouvernement également, chef du PAIGC. Idriss Fall l'a également joint.
Non, il n'y a pas de réponse à quelqu'un qui se propose d'être le premier magistrat d'une nation qui ne reconnaît pas la loi, il ne reconnaît pas les institutions, il ne reconnaît pas l'état de droit. Moi, je pense que lorsque on se présente comme un candidat pour être président de la République, le premier des engagements qu'on prend, c'est de reconnaître et de respecter notre loi interne et les dispositifs qui sont constitutionnels.
En principe, la commission électorale lui a accordé la victoire, non?
Le procès électoral débute au niveau de la Cour suprême de la justice, il se finit au niveau de la Cour suprême de la justice. La Commission nationale électorale, c'est un organe technique, tutelé par l'Assemblée nationale populaire, que dès qu'ils finissent leur travail, s'il n'y a pas de contentieux, oui, mais lorsqu'il y a des contentieux, on revient à la Cour suprême de justice pour trancher. Et c'est sur ça que la Cour suprême de justice a dit clairement à tout le monde qu'on ne peut pas connaître le vainqueur des élections présidentielles du 29 décembre, lorsqu'on a passé le dépouillement national des votes.
La Haute Cour recommande qu'on voit tous les votes au plan national?
Bien sûr. Quand la Cour suprême a pris la première décision, arrêt numéro 1 en 2020, il se posait la question de la commission électorale n'a pas fait le PV national de dépouillement. Hier, on a appris que sur les 10 régions administratif de la Guinée-Bissau, la Commission nationale électorale ne dispose que de 2 PV de dépouillement des résultats. C'est-à-dire, on n'est pas sérieux, on n'est pas professionnel, on est en train de mettre en cause le choix que le peuple du Faro guinéen a fait le 29 décembre.
Est-ce que votre pays peut se payer le luxe ou bien la luxure d'entrer dans une nouvelle crise qui n'en finit pas depuis plusieurs années?
C'est le contraire qui est le luxe. Mettre en cause le choix du peuple. Mettre en cause la liberté de choisir son président de la République. Être capable d'assurer que la justice fonctionne, que les institutions démocratiques de la République sont respectées. C'est ça qui met en cause la stabilité, la tâche de nous tous, soit au niveau interne, soit des institutions internationales, soit d'aider la Guinée-Bissau à édifier des institutions démocratiques qui sont solides, c'est-à-dire la loi. Il faut qu'on respecte la loi. Et quand on parle des institutions judiciaires, l'organe maximal pour trancher sur des disputes, soit électorales, soit judiciaires, c'est la Cour suprême de justice. Il n'arrive à personne d'autre, il n'arrive à n'importe quelle autre institution de remplacer les organes souverains de la Guinée-Bissau.
Domingos Simoes Pereira, qui conteste les résultats de la présidentielle en Guinée-Bissau. La crise politique en Guinée-Bissau, un dossier préparé par Idriss Fall.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Cameroun, la peur du coronavirus se fait sentir partout, de même que son impact économique dans certains secteurs d'activité. À Yaoundé, notre correspondant a pu s'en rendre compte auprès d'opérateurs économiques de motos et du cosmétique en provenance de Chine. Je vous propose le reportage d'Emmanuel Jelenta.
Jean, Christophe et Jimmy sont vendeurs de motos au lieu-dit Moto Aurore à Yaoundé. En cet après-midi, les trois amis vendent la marque de moto Senke, importée depuis la Chine. Jean ne cache pas l'impact économique du coronavirus sur leur entreprise.
Depuis qu'il y a ce fameux virus en Chine, nous vivons une vie d'enfer parce que sur le plan des motos, il n'y a plus la marchandise. Ou lorsqu'il y a même le peu de marchandise qui est un peu stocké, les prix augmentent. Donc nous sommes, si d'ici deux mois ça continue, on va passer au chômage.
Mais déjà, les prix de moto ont connu une légère augmentation.
Bon, les prix, on quitte de 450 000 à 480 000 une moto déjà. Nous-mêmes, nous souffrons parce qu'on arrive à gérer les deux bouts. Parce que l'importateur vous dit ceci, le détaillant vous dit ceci, il faut payer les employés, il n'y a plus d'argent pour payer les employés.
Le marché central de Yaoundé, l'un des plus fréquentés de la capitale. Ici, les boutiques tenues par les Chinois et les produits de la Chine abondent. Jean-Claude vend les jeans, les polos achetés de Chine. Son activité subit aussi un coup.
Une semaine avant que cette histoire n'arrive, on était déjà, nous, que Jean était sur les lieux. Bon, apparemment, même les marchandises qu'il a eu achetées ne sont pas encore arrivés parce que les frontières sont bloquées. Déjà que tu ne peux pas satisfaire le client, comment la chaîne va tourner?
À Layette, importée de Chine, les vêtements pour bébés occupent tout un bloc du marché central de Yaoundé. Marie-Jeanne faisait fortune dans l'affaire. Mais depuis un certain temps, le coronavirus a grippé le business.
Il y a un très grand impact parce que présentement, on ne peut plus aller faire les achats en Chine pour le moment. Et ce qui fait qu'on ne peut plus avoir des marchandises, puisque nous faisons dans la Layette et le prêt-à-porter. Et on peut caler maintenant à Douala s'approvisionner.
Dans les rues de Yaoundé, les ravages du coronavirus font déjà frémir de peur certains Camerounais.
Nous ne serons pas fiers qu'elle entre dans notre pays. Nous en avons d'abord plusieurs. C'est une chose qui fait vraiment peur vu le taux de mortalité.
Aucun cas de coronavirus n'a été détecté au Cameroun. Cependant, un dispositif de dépistage d'éventuels cas existe déjà dans les aéroports du pays. Yaoundé, Emmanuel Jolunta, VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine, dans Washington Forum, la commission électorale togolaise a proclamé le président sortant Florian Singbe vainqueur de la présidentielle du 22 février avec plus de 72% des voix. L'opposant Akpeyome Kodjo conteste les résultats et appelle à la mobilisation. Le scrutin qui a conduit à la réélection de Florian Singbe pour un quatrième mandat s'est déroulé dans le calme. Qu'est-ce qui explique la large victoire du président fort? La période post-électorale ouvre-t-elle des perspectives de dialogue au Togo? Nous allons discuter de tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Ici aux États-Unis, les candidats à l'investiture du Parti démocrate en vue de la présidentielle du 3 novembre prochain ont pris part à un nouveau débat télévisé hier soir. Cette fois, c'était en Caroline du Sud. Bernie Sanders, le grand favori de ces primaires démocrates, a été pris pour cible par ses rivaux. Cette joute, qui intervient 4 jours avant le scrutin dans cet état de la Caroline du Sud, samedi et une semaine avant le Super Tuesday mardi prochain, a été chaotique, d'après l'analyste René Lake. Il est interrogé par Bagasikoura.
Ça a été le débat le plus chaotique de tous les débats que les démocrates ont eu, de mon point de vue. C'est au point même qu'il y avait même une... En tant qu'observateur, en tant qu'analyste, j'ai même éprouvé une certaine gêne à un moment, tellement c'était chaotique, les gens se parlaient les uns sur les autres. Je trouve que le débat n'a pas été très très bien mené. C'est la première fois que je constate une situation de ce type. Donc ça, c'est l'impression générale. Donc du coup, l'une des conséquences de cela, à mon avis, c'est que les différents protagonistes n'ont pas tellement fait bouger les lignes, hein, dans le sens où chacun a essayé d'être plus agressif que d'ordinaire, mais ça n'a pas, je crois, fait particulièrement bouger les lignes. Mais ceci dit, je dois avouer que je pense que Bloomberg s'en est un tout petit peu mieux sorti que la première fois. La première fois, comme vous savez, c'était un désastre pour lui. Mais cette fois-ci, bon, au moins, on n'était pas dans la zone rouge négative.
Et Bernie Sanders a été beaucoup attaqué, hein, de tous les côtés.
Tout à fait. Alors Bernie Sanders, je crois qu'il a reçu le traitement des gens qui sont en pole position, hein, étant donné qu'il est en tête dans tous les sondages, c'est lui qui est en tête également dans le nombre de délégués déjà obtenus à ce stade-ci. Donc du coup, il a eu le traitement du leader, et donc tout le monde s'est mis à l'attaquer. Je l'ai trouvé également un peu plus terne que d'habitude. D'habitude, il se défend, c'est une sorte de rock qui se défend avec des positions connues et répétées depuis longtemps. Mais hier, je l'ai trouvé un tout petit peu off comparé à ses autres prestations. Peut-être que cela a été lié au fait que dans l'assistance, je crois aussi que c'est la première fois que j'ai vu ça. Dans l'assistance, il y a eu des clameurs qui lui étaient un peu négatives, alors qu'en général, il est plutôt très populaire. Donc, je ne sais pas trop comment était composée l'assistance pour le débat hier, mais Bernie n'a pas eu sa meilleure soirée.
Oui, alors Bernie n'a pas eu sa meilleure soirée. On sait que dans 3 jours, il y aura des primaires en Caroline du Sud. Est-ce que ces primaires seront déterminantes, à votre avis?
Ah oui, absolument. Je crois que ça va être très, très important. Parce que vous savez ce qui va se passer, c'est que samedi, il y a les primaires en Caroline du Sud, et mardi, donc dimanche, lundi, mardi, donc 3-4 jours plus tard, il y a ce qu'on appelle le Super Tuesday, où plus du tiers des délégués vont être mis en compétition. Donc franchement, celui qui va gagner la Caroline du Sud, ça va lui donner un momentum vraiment très important pour le Super Tuesday de mardi.
On écoutait le journaliste René Lake, qui observe la politique américaine de très près. Il a été joint ici dans la région de Washington. « Et voilà, c'est ici que nous allons clore Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. La mise en onde a été assurée par Firmin Koyaweda. C'est notre ami Justin Twaite qui était à la technique. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous souhaite une très belle soirée sur VOA Afrique. À très bientôt et comme on dit, take care. Prenez bien soin de vous.